Je me trouvais récemment à dîner avec des hommes d'une très vive intelligence, quand tout à coup l'un d'eux, journaliste éminent, crut devoir attaquer Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques Rousseau, l'un des plus grands écrivains qui ait jamais existé. Il s'attaquait à ses idées, à ses opinions, à ses principes et à son influence, mais son génie, d'un geste, il l'écartait. Soutenu par la plupart des convives présents, il prononça enfin ces mots. Jean-Jacques est responsable de nos malheurs actuels.
C'est Sacha Guitry qui disait cela et les choses n'ont pas beaucoup changé depuis. Jean-Jacques Rousseau a suscité des passions et en suscite beaucoup encore. Aventurier, rêveur, philosophe, anti-philosophe, théoricien politique, musicien, persécuté, Jean-Jacques Rousseau était tout cela et c'est parce qu'il se sentait persécuté qu'il a entrepris d'écrire ses confessions. Il voulait rendre son âme transparente aux yeux de ses lecteurs, être reconnu pour ce qu'il était. Mais comment se dire, comment tout dire de soi, comment déployer tous les replis de son âme? Pour en parler ce soir avec nous deux hommes, Philippe Lejeune, spécialiste de l'autobiographie, incontournable, et William de la Rocca, tout aussi incontournable, comédien. Il a adapté les confessions de Jean-Jacques Rousseau en feuilleton théâtral, 24 heures de spectacle, qu'il joue dans des appartements, des écoles, plutôt en petits comités. Et je dois vous dire que j'ai assisté à deux représentations de William de la Rocca, et j'ai eu l'impression à chaque fois, quand il entre dans la pièce, seul face à ses auditeurs, d'être face à Jean-Jacques Rousseau, le vrai, comme si Jean-Jacques Rousseau était ressuscité. Et pourtant, il y a quelques années encore, William de la Rocca ne savait rien de Jean-Jacques. Il n'avait jamais rien lu de lui. C'est au cinéma qu'il l'a découvert, par une belle soirée de printemps. C'était en 2006, et ce soir-là, sa vie a basculé. Cette rencontre avec Jean-Jacques Rousseau, William de la Rocca, a mis votre vie sans dessus. Dessous.
Ah, totalement. À tel point que je dis souvent que je ne me souviens plus de ce qu'était ma vie avant ce jour, avant ce...
Et c'est vrai ou c'est une posture?
Ah non, c'est pas du tout une posture. Ça s'efface de plus en plus.
C'est-à-dire, votre vie, c'est une nouvelle vie qui commence ou c'est votre vie commence avec cette rencontre avec Jean-Jacques Rousseau?
Ma vie de comédien, en tout cas, oui. Et ça a eu un impact énorme aussi sur ma vie d'homme.
C'est une vie à deux?
Totalement.
Il vous accompagne, il est là?
Tout à fait.
Tout le temps?
Tout le temps. Et c'est une très bonne compagnie.
Jean-Jacques Rousseau?
Oui, oui, absolument.
C'est un frère?
Oui, on peut dire ça comme ça, oui, sans doute. Un frère plus qu'un maître, hein. Je ne l'ai jamais envisagé de la sorte. Un ami, un frère. J'ai lu beaucoup d'autobiographies dans ma vie, mais jamais une seule qui m'ait fait une impression pareille. C'était absolument bouleversant, de la première à la dernière page. Ça m'a paru évident de l'apprendre et d'incarner Jean-Jacques comme s'il revenait aujourd'hui nous raconter sa vie.
Oui, ça c'est votre parti pris.
Hein, oui, absolument. Vous... Mais parce que je pense qu'une lecture n'aurait pas eu du tout le même impact, une lecture à la table par exemple, sur les auditeurs.
Vous vouliez vraiment cette intimité et cette idée que Jean-Jacques revienne le temps de la représentation parmi nous.
Absolument. Comme si j'avais attendu ce texte-là toute ma vie pour m'en faire le porte-parole, d'une certaine manière.
Comme si vous étiez la voix de Jean-Jacques Rousseau?
La voix,
l'allié. Porte-parole,
oui.
La voix, l'allié. Alors, est-ce qu'on peut vous écouter? Est-ce que vous pouvez nous dire le tout début des
Bien
confessions
sûr.
Le préambule, c'est ça?
Oui. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature. Et cet homme, ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur, et je connais les hommes, je ne suis fait comme aucun de ce que j'ai vu. J'ose croire n'être fait comme aucun de ce qui existe. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Que la trompette du jugement dernier sonne, quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus, j'ai dit le bien et le mal avec la même franchise, je n'ai rien eu de mauvais, rien ajouté de bon. Et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux.
Jusqu'à 21h, les confessions de Jean-Jacques Rousseau ou le discours de soi avec William de la Roca et Philippe Lejeune. Lejeune, j'ai voulu que vous soyez présent avec nous ce soir parce que vous êtes le grand spécialiste de l'autobiographie, vous êtes aussi le fondateur de l'APA, l'association pour l'autobiographie. Et je voulais absolument vous entendre parler de ce que représentent les confessions dans l'histoire de la littérature. Est-ce que les confessions, c'est la première autobiographie de la littérature française ?
C'est un sujet de discussion académique. Il y a ceux qui, comme moi, pensent qu'il s'est tout de même passé quelque chose d'incroyablement nouveau en 1782, quand les confessions ont été publiées. Car jusqu'avant cette date, je crois qu'aucun texte autobiographique publié n'avait suscité autant de, même pas de scandale, mais d'étonnement, d'incompréhension et de rejet. Une des choses qui m'a d'ailleurs surprise, que j'ai mis longtemps à réaliser, c'est que le texte publié en 1782 n'est pas complet. Et que les éditeurs amis de Jean-Jacques Rousseau, Moutou et Dupérou, avaient fait des coupes pour essayer de préserver leur grand homme. Donc il y a un certain nombre de textes, parmi les plus scandaleux que nous lisons aujourd'hui, qui n'étaient pas là en 82.
Comme en quoi alors ? Comme la découverte de la masturbation, des choses
non,
comme ça ?
Non, la découverte de la masturbation, non. Ce n'était pas tellement une question de décence, c'était une question de goût. Ce sont des passages qui sont d'un mauvais goût. D'ailleurs, une des choses qu'on a reprochées, qui nous étonne aujourd'hui, à Rousseau, c'est d'avoir un style de valet trivial.
C'est ce qu'on a voilà. dit ? Un oui. style de valet ?
Oui. C'est un texte qui a créé un choc.
Mais qu'est-ce qui fait scandale quand ça sort ? Qu'est-ce qui heurte tant ? À part ce que vous disiez, cette langue de valet, qu'est-ce qui choque ?
Ce qui choque, je peux vous lire deux ou trois lignes, parce qu'on n'arrive pas à croire qu'on ait pu écrire ça en 1782.
Ah, je vous écoute.
Si, pour égayer sa vieillesse, Jean-Jacques avait besoin de se rappeler le souvenir de ses premières années, ne pouvait-il pas se procurer cette satisfaction sans importuner les lecteurs de bagatelles qui n'ont pour eux aucun intérêt ? Et où en serions-nous, donc tenez-vous bien, où en serions-nous si chacun s'arrogeait le droit d'écrire et de faire imprimer tous les faits qui l'intéressent personnellement et qu'il aime à se rappeler, ses plaisirs, ses chagrins, ses bonnes fortunes, ses maladies, etc.
Ce qui déplaît, c'est le déballage, c'est ça ?
C'est pas tel... Oui, tout ce qui est de l'ordre de la vie extrêmement intime, ce qui fait que ce sont des confessions, vraiment.
Oui, et c'est puis, ça, il nous épargne rien, tout est dit.
Il nous épargne rien, tout est dit, et en même temps... ce que les gens perçoivent comme de l'insignifiance. Pourquoi est-ce qu'ils racontent toutes ces choses ? Ça nous est égal qu'il ait fait pipi dans la marmite de Madame Clot. Ça nous est égal qu'il se rappelle dans la chambre où il faisait ses études, le baromètre, les oiseaux qu'il entendait par les fenêtres. Pourquoi nous raconter toutes ces choses qui ont un sens pour lui et qui, pour nous, ne devraient pas en avoir, mais qui, en réalité, en ont ?
Et alors là, en vous entendant énumérer ces trois révolutions, on comprend pourquoi vous parlez d'un choc de civilisation quand vous parlez des confessions.
Ça ne ressemblait absolument à rien de ce qu'on avait vu. Il explique qu'il va faire une révolution psychologique, une révolution politique et une révolution littéraire. La révolution psychologique, en deux mots, c'est les hommes ne se connaissent pas, ils sont tous des apparences, des masques les uns pour les autres, et personne ne se connaît soi-même, puisque pour se connaître, il faudrait pouvoir se comparer aux autres, or par définition, on les connaît pas, etc., etc. Il faut que quelqu'un rompe ce cercle de l'incompréhension entre les hommes, et c'est moi, Rousseau, qui vais le faire, je vais me mettre à nu, je vais donner un exemple auquel tout le monde pourra se comparer. Alors, naturellement, on lui fait immédiatement l'objection. Je lui fais immédiatement l'objection. Mon cher Jean-Jacques, tu te connais aussi peu que les autres. Donc, ce que tu vas leur donner, c'est une connaissance elle-même imparfaite de toi. Alors, il dit non, parce que moi, je vais avoir une autre méthode. Et il explique sa méthode, qui est une méthode, en fait, qui se rapproche beaucoup de l'univers freudien, hein, d'une certaine manière. Il explique d'abord que il a deux points de méthode psychologique. Le premier, c'est que tout vient de l'enfance, tout vient de très loin. Tout vient de très loin et de manière qui n'est pas reconnaissable. Il faut regarder le détail des enchaînements, des causes.
Comprendre comment il est devenu ce qu'il est.
Voilà.
Donc ça, c'est une révolution.
Oui, absolument, c'est une révolution. Et l'autre révolution, c'est ce point sur lequel il est obsessionnel, qui est celui du détail, de ce qu'il appelle l'exactitude.
C'est fatigant par moment. Hein.
Vous avez trouvé ça fatigant ?
Par moment, oui.
Non, c'est tout à fait charmant et intéressant. Son idée, c'est que s'il dit tout... il ne va pas forcément comprendre tout ce qu'il dit. Et il va laisser, il va donner une masse d'informations, il loue le dossier Jean-Jacques Rousseau avec tous les éléments. Il ne voit pas très bien, pour certains éléments, à quoi ils vont se rabouter, comment ils vont s'organiser les uns avec les autres, mais il les donne au lecteur. Et il explique que c'est le lecteur qui sera responsable de faire un tableau général de lui, il donne tous les matériaux.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est comme s'il avait laissé courir sa plume, il laissait venir les images, les couleurs, les impressions, les émotions.
Oui, c'est d'ailleurs le sentiment qu'on a en lisant Les Confessions, c'est un livre qui est complètement imprévisible. On ne peut absolument pas savoir où on sera à la page suivante, pas seulement parce qu'on ignore la suite du déroulé de l'histoire, ça c'est normal dans n'importe quelle histoire, mais parce qu'il passe son temps à changer de ton. De temps en temps, c'est gai, de temps en temps, c'est triste, de temps en temps, c'est cocasse, de temps en temps, c'est absolument tragique, de temps en temps, c'est filandreux.
Ouais. Ça arrive. Filandreux, ouais, c'est vrai.
Bon. Et puis, il fait un acte, en écrivant sa vie, il fait un acte politique. Il explique que jusqu'à présent, c'est les rois, les gens célèbres, les gens qui avaient participé à des événements sociaux, collectifs, les guerres, la vie à la cour, qui avaient le droit, qui étaient légitimés à raconter leur vie. Et du coup, en fait, tout ça, c'est fini. Et que la seule chose qui compte, c'est de savoir si on est soi-même intéressant. N'importe qui peut raconter sa vie, et d'autant plus que, dit-il, j'ai eu une vie socialement extrêmement mouvante. J'ai été en bas, en haut de la société. J'ai parcouru toute la société. Donc le côté picaresque de sa vie lui donne une sorte de regard sociologique d'ensemble sur la société.
C'est une nouvelle façon de concevoir la littérature, c'est une nouvelle façon de concevoir l'écriture.
Oui.
C'est une nouvelle façon de se concevoir soi, de concevoir le moi, et c'est une nouvelle façon de concevoir son rapport au lecteur. Tout ce que vous êtes en train de me dire.
Absolument.
Tout ça, oui. C'est les confessions.
Tout ça, c'est les confessions, oui. Ceci dit, l'ombre qui est derrière, c'est plutôt celle de Montaigne. Le texte de Montaigne, à son époque, était aussi tout à fait en rupture avec tout ce qu'on pouvait attendre. Et les confessions ont la même allure, totalement libre, en disant « je vais y aller, je me jette, je dis tout au lecteur de finalement, et je ne fais pas la synthèse ». Parce qu'une des choses, qui est aussi frappante dans l'aventure autobiographique de Rousseau, c'est qu'il a passé son temps à recommencer. Donc il a une attitude d'expérimentateur lui-même, n'est jamais vraiment complètement satisfait, il a l'impression que c'est toujours à recommencer,
c'est
à refaire, c'est un chercheur.
Il cherche quoi? Comment parler de lui? Comment dire sa vérité sur lui? Il cherche comment être au plus près de lui-même? Comment se faire comprendre? C'est ça qu'il cherche?
Oui, absolument. Et à chaque fois, il a l'impression qu'il n'y a pas de retour.
On ne l'entend pas.
On n'entend pas, on n'a pas compris. C'est pas tellement que lui ne soit pas satisfait, mais il voit que ça ne marche pas.
J'ai promis de me peindre tel que je suis, et pour me connaître dans mon âge avancé, il me faut m'avoir bien connu dans ma jeunesse. Je m'applique à bien développer partout les premières causes pour faire sentir l'enchaînement des effets. Je voudrais pouvoir en quelque façon rendre mon âme transparente aux yeux des lecteurs et pour clé, je cherche à la lui montrer sous tous les points de vue, à l'éclairer par tous les jours, à faire en sorte qu'il ne s'y passe pas un mouvement qu'il aperçoive. C'est ce qu'écrit Jean-Jacques Rousseau dans ses Confessions, rendre son âme transparente aux yeux des lecteurs. Il veut tout dire de sa vie pour clamer sa vérité. Voilà ce que veut entreprendre Jean-Jacques Rousseau. Menacé d'arrestation, il s'est exilé en Suisse quand il commence la rédaction de ses Confessions en 1764. Et il est obsédé par le complot qui se trame contre lui. Il est persuadé que tout le monde lui en veut, ses écrits sont de plus en plus contestés. Il est dans la situation de celui qui a déjà été jugé. Alors, ses confessions s'adressent à tous ceux, dont Voltaire, qui l'ont calomnié et traîné dans la boue. Face aux mensonges et au cynisme, Jean-Jacques Rousseau réclame justice. Et pour ça, il a besoin de dire sa vérité. Il veut se justifier des accusations dont il est la victime. Avec les confessions, Jean-Jacques Rousseau cherche à être innocenté. Philippe Lejeune.
Oui, une des choses que rencontre immédiatement le lecteur des confessions, c'est qu'on est en face de quelqu'un qui veut être aimé. Je crois que William de la Roca, tout à l'heure, et vous-même, quand vous avez prononcé les noms de frère, fraternité, ami, Le sentiment qu'on a, c'est que Rousseau est un pauvre homme.
Oui.
Est un pauvre homme comme nous. Que c'est un homme moyen, avec des faiblesses, avec des...
Oui, un homme ordinaire.
Et donc, la reconnaissance qu'il nous demande, c'est une reconnaissance indulgente, autant qu'admiratrice. Il n'a pas la morgue d'un grand seigneur qui veut qu'on lui rende hommage. Il a désespérément envie de se faire accepter, de se faire aimer. Et d'autre part, une des choses qui me frappe quand je lis les confessions, c'est que c'est une véritable recherche de soi. Il passe son temps à être étonné par lui-même, à être devant des choses, des contrastes, des contradictions, ou ce qu'il appelle des bizarreries. Et il en arrive à certains moments à se demander si c'était vraiment lui,
ouais,
je n'étais plus moi, je le suis redevenu, c'est-à-dire, et puis s'il se comprend bien, s'il n'y a pas quelque chose qui lui échappe. Donc une vraie interrogation de quelqu'un qui, au bout du compte, après des centaines de pages d'introspection, se demande
s'il se comprend bien lui-même.
Oui, mais lui-même est méditatif, pensif.
Oui, vous voulez dire quelque chose, William de la Roca?
Cet homme a une intelligence hors du commun, s'auto-analyse d'une manière tout à fait extraordinaire, en plus pour l'époque. Il voit dans divers événements de son enfance ce qui a déterminé l'homme qu'il est devenu. Ce qui m'a frappé, alors, c'est que malgré tout ce qu'il voit, avec une acuité vraiment extraordinaire, il passe tout à fait à côté, il me semble, d'un événement tout à fait fondamental qui est la mort de sa mère. Vous savez, dans les premières pages des Confessions, il raconte que son père voyait son épouse morte en lui.
Non, je ne me rappelle pas. Vous pouvez me les dire?
Et
vous fermez les yeux et vous me les dites.
Il lui dit « Rends-la-moi, console-moi d'elle, remplis le vide qu'elle a laissé dans mon âme. T'aimerais-je ainsi si tu n'étais que mon fils ?» J'ai beaucoup de psychanalystes dans le public qui me suit. Et c'est vrai que, par exemple, ceux d'entre eux qui ne connaissaient pas du tout cette œuvre, la première fois qu'ils ont entendu le premier livre, ils n'en croyaient pas leurs oreilles. C'est Freud avant la lettre, comme le disait Philippe tout à l'heure.
Ah, vous pouvez m'en dire alors quoi est Freud avant la lettre, comme ça? Qu'est-ce qui vous vient, que je l'entende?
Les trois événements, ce sont la fessée, en fait.
Les premiers émois.
Voilà, les premiers émois érotiques.
Avec cette fessée qui n'est pas nommée.
Provoqué par une fessée qui n'est jamais nommée, d'ailleurs, que lui a donnée Mademoiselle Lambercier, alors qu'il avait 8 ou 9 ans. Ensuite, c'est donc ce peigne cassé. On l'accuse de l'avoir cassé alors qu'il n'y est absolument pour rien. On le punit, pour ça, on ne le croit pas.
Tout le passage sur la fin de l'enfance.
Oui,
la fin de l'innocence, sa découverte du sentiment de l'injustice.
Absolument.
Et il sera puni pour ça.
Tout à fait.
Battu. Et là, il dit... C'est la fin de l'innocence, il le dit. Hein.
Absolument, absolument. Alors que jusqu'à présent, il a toujours été un enfant chéri, respecté, aimé des adultes, et tout à coup, voilà. Ensuite, c'est l'apprentissage, c'est-à-dire l'adolescence, quand il se retrouve tout à coup sortant d'un cocon comme ça, aimant, tendre, doux, dans la réalité de ce qu'est...
Avec un maître sadique,
voilà,
violent,
rustre...
Je vous écoute là, et dans ce livre 1, c'est que justement, il n'y a aucune psychologie. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'il essaie de comprendre pourquoi et comment il est devenu ce qu'il est. Il remonte intuitivement comme ça, il reprend l'histoire du début de sa vie. Il égrène les faits, mais sans aucune psychologie. C'est nous aujourd'hui qui le lisons avec l'éclairage de Freud et de la psychologie.
Mais c'est son génie.
Oui, je suis peut-être pas tout à fait d'accord sur l'absence de psychologie. Quand vous lisez le passage, le récit sur la fessée reçue de Mademoiselle Lambercier, c'est tout de même extraordinairement intelligent, la manière dont il analyse le côté symbolique de cet épisode, et comment, en fait, il récupère comme marque d'amour cet amour qui lui manque.
À défaut
d'avoir des bisous, une bonne fessée... Il n'a pas le langage technique, ou si on peut dire explicite, de la psychologie, mais il a le geste.
L'intuition.
L'intuition.
Donner sa vie à la vérité, voilà le dessin de Jean-Jacques Rousseau dans ses confessions. Jean-Jacques Rousseau a l'obsession de tout dire, mais comment tout dire de soi? C'est la difficulté de l'entreprise dans laquelle il se lance. Il a dû chercher un langage qui puisse dire tout, les riens, les petites expériences, les détails, comme par exemple l'histoire d'un petit ruban couleur de rose et d'argent. C'est un passage des confessions que William de la Rocca et Philippe Lejeune aiment particulièrement. C'est le premier mensonge de Jean-Jacques Rousseau et c'est le remords de sa vie. Il n'en avait jamais parlé à personne avant de l'écrire dans le deuxième livre de ses confessions. Jean-Jacques Rousseau était alors domestique dans une maison noble. Quand il se laisse tenter, ce sont ses mots, par ce ruban de couleur rose et d'argent, déjà vieux, je le cite. Il le vole et accuse la servante Marion du larcin avec une audace qu'il ne se connaissait pas et dont il s'étonne encore. Jean-Jacques Rousseau, en confessant cet épisode, veut expier ce crime qu'il a porté toute sa vie. Je vous propose de continuer notre lecture des confessions de Jean-Jacques Rousseau avec William de la Rocca, comédien, amoureux fou de Jean-Jacques. Il connaît d'ailleurs les confessions par cœur, c'est très impressionnant. Et Philippe Lejeune, spécialiste de l'autobiographie.
L'accusation qu'il jette sur cette servante est comme une espèce d'agression sexuelle. Il a brusquement prise sur elle, il l'accable, il se découvre, c'est le seul moment dans les confessions, je crois, où il découvre sa pulsion sadique.
Il en a des remords toute sa vie, hein, il le dit.
Il en a des remords, mais il est aussi fasciné tout de même par le plaisir.
Si vous fermez les yeux, ça vous revient, le ruban?
Beaucoup d'autres meilleures choses étaient à ma portée. Ce ruban seul me tenta. Je le volai. Et comme je ne le cachais guère, on me le trouva bientôt. On voulut savoir où je l'avais pris. Je me trouble, je balbutie et enfin je dis, en rougissant, que c'est Marion qui me l'a donné. Non seulement Marion était jolie, mais elle avait une fraîcheur de coloris qu'on ne trouve que dans les montagnes, et surtout un air de modestie et de douceur qui faisait qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer. D'ailleurs, bonne fille, sage et d'une fidélité à toute épreuve, c'est ce qui surprit quand je la nommai. On la fit venir. L'assemblée était nombreuse, le comte de la Roque y était. Elle arrive, on lui montre le ruban, je la charge effrontément. Elle reste interdite, se tait, me jette un regard qui aurait désarmé les démons et auquel mon barbare cœur résiste. Elle nie, enfin, avec assurance mais sans emportement, m'apostrophe, m'exhorte à rentrer en moi-même, à ne pas déshonorer une fille innocente qui ne m'a jamais fait de mal, et moi, avec une impudence infernale, je confirme ma déclaration et lui soutiens en face qu'elle m'a donné le ruban. La pauvre fille se mit à pleurer et ne me dit que ces mots. « Ah, Rousseau, je vous croyais un bon caractère. Vous me rendez bien malheureuse, mais je ne voudrais pas être à votre place. Voilà tout. » Ce souvenir cruel me trouble quelquefois et me bouleverse au point de voir dans mes insomnies cette pauvre fille venir me reprocher mon crime comme s'il n'était commis que d'hier. Je n'ai jamais pu prendre sur moi de décharger mon cœur de cet aveu dans le sein d'un ami. Ce poids est donc resté jusqu'à ce jour sans allègement sur ma conscience. Et je puis dire que le désir de m'en délivrer, en quelque sorte, a beaucoup contribué à la résolution que j'ai prise d'écrire mes confessions. Jamais la méchanceté ne fut plus loin de moi que dans ce cruel moment. Et lorsque je chargeais cette malheureuse fille, il est bizarre, mais il est vrai que mon amitié pour elle en fut la cause. Elle était présente à mon esprit. Je m'excusais sur le premier objet qui s'offrit. Je l'accusais d'avoir fait ce que je voulais faire et de m'avoir donné le ruban parce que mon intention était de le lui donner. Et je crois sentir que mon aversion pour le mensonge me vient en grande partie du regret d'en avoir pu faire un aussi noir. Si c'est un crime qui puisse être expié comme j'ose le croire, il doit l'être. Par tant de malheurs dont la fin de ma vie est accablée, par 40 ans de droiture et d'honneur dans des occasions difficiles, et la pauvre Marion trouve tant de vengeurs en ce monde que quelque grande qu'ait été mon offense envers elle, je crains peu d'en emporter la culpe avec moi. Voilà ce que j'avais à dire sur cet article. Qu'il me soit permis de n'en reparler jamais.
Jusqu'à 21h, on est toujours en compagnie de Jean-Jacques Rousseau, William de la Roca et Philippe Lejeune.
J'ai envie qu'on parle de ces soubresauts du cœur, de ces élans du cœur, de ces transports du cœur. J'ai l'impression que son cœur s'emballe et s'emballe et s'emballe et s'emballe dans ses confessions. Qu'il tombe amoureux, qu'il est charmé, qu'il est touché, qu'il est bouleversé, qu'il est...
Oui, c'est un état qu'il aime particulièrement, je pense. Sans pour autant aller jusqu'à la conclusion, d'ailleurs.
Oui, il le dit. Hein.
Voilà, je pense que la conclusion ne l'intéresse pas, en fait.
Non, non, il le dit, j'ai beaucoup joui en imagination, j'ai possédé peu de femmes, mais j'ai beaucoup joui en imagination. Mais c'est exactement ça, mais j'ai l'impression que ces confessions, c'est aussi une longue litanie comme ça de noms de femmes en dehors de sa femme, Thérèse.
Thérèse, c'est vraiment autre chose, hein. C'est comme une sœur plus qu'une amante. En tous les cas, une maîtresse, puisqu'il reconnaît qu'il n'a jamais été vraiment amoureux d'elle, hein. Qu'il s'est beaucoup attaché à elle, qu'il a pris soin d'elle, surtout parce qu'il lui a déclaré qu'il ne l'abandonnerait jamais, et il a tenu parole. Et ces jeunes filles ou ces femmes dont il est tombé amoureux tout au long de sa vie, il fallait que ça reste du domaine du fantasme. Il y a des pages admirables, d'ailleurs, c'est toujours ce qui me fait sourire quand on le traite ensuite de misogyne. Il y a quand même des pages sur les femmes tout au long de ce livre. Sa tante, Suzon, qui prend soin de lui après la mort de sa mère, évidemment Madame de Varence. Et même, il dit de très belles choses sur Thérèse aussi.
Mais je vous avoue, donc moi qui ai lu toutes vos adaptations des 12 livres, je m'y perdais dans les madames et les mademoiselles et les élans de son cœur. Je m'y perds, tellement il y en a.
Vous donnez l'impression qu'on va lire Casanova, oui, ou Rétif de la Bretonne, alors que lui-même au contraire, insiste. Il insiste sur la rareté de ces épisodes. On les compte sur les doigts d'une main, hein, entre Madame Basile, Madame Basile, de toute façon.
Il se passe rien.
Mademoiselle de Breuil, ensuite, Mademoiselle à Turin.
Madame Larnage, Maman...
Sophie Doudetot. Les courtisanes de Venise aussi, ça c'est des épisodes croustillants.
Avec le Saint-Borgne.
Le téton borgne.
Il y en a quand même quelques-unes, là, vous voyez bien.
Oui, mais,
oui, mais là, par exemple.
Il ne se passe rien, c'est ça que vous voulez dire?
Non, il ne s'est rien passé du tout.
Ça ne marche pas, il n'y arrive pas.
Oui.
Oui, ça c'est très beau.
Moi, je préfère les cerises.
Alors, on commence vraiment au moment des cerises, c'est-à-dire au moment où ils vont dans le verger. Pour...
D'accord. Ça tombe dans les chemisiers.
Après le dîner, nous fîmes une économie. Au lieu de prendre le café qui nous restait du déjeuner, nous le gardâmes pour le goûter avec de la crème et des gâteaux qu'elles avaient apportés. Et pour tenir notre appétit en haleine, nous allâmes dans le verger achever notre dessert avec des cerises. Je montais sur l'arbre et je leur en jetais des bouquets dont elles me rendaient les noyaux à travers les branches. Une fois, Mademoiselle Gallet, avançant son tablier et reculant la tête, se présentait si bien et je visais si juste que je lui fis tomber un bouquet dans le sein. Et de rire, je me disais en moi-même que mes lèvres ne sont-elles des cerises, comme je les leur jetterais ainsi de bon cœur. La journée se passa de cette sorte, affolâtrée avec la plus grande liberté et toujours avec la plus grande décence. Pas un seul mot équivoque, et cette décence, nous ne nous l'imposions point du tout, elle venait toute seule. Nous prenions le ton que nous donnaient nos cœurs. Enfin, ma modestie, d'autres diront ma sottise, fut telle que la plus grande privauté qui m'échappa fut de baiser une fois la main de Mademoiselle Gallet. Il est vrai que la circonstance donnait du prix à cette légère faveur. Nous étions seuls, je respirais avec embarras, elle avait les yeux baissés, ma bouche, au lieu de trouver des paroles, s'avisa de se coller sur sa main, qu'elle retira doucement après qu'elle fut baisée, en me regardant d'un air qui n'était point irrité. Avec quel regret nous nous séparâmes, avec quel plaisir nous projetâmes de nous revoir. 12 heures passées ensemble nous valaient des siècles de familiarité. Nous nous aimions sans mystère et sans honte, et nous voulions nous aimer toujours ainsi. Pour moi, je sais que la mémoire d'un si beau jour me touche plus, me charme plus, me revient plus au cœur que celle d'aucun plaisir que j'ai goûté en ma vie. Je ne savais pas trop bien ce que je voulais à ces deux charmantes personnes, mais elles m'intéressaient beaucoup toutes deux. Quoi qu'il en soit, il me semblait, en les quittant, que je ne pourrais plus vivre sans l'une et sans l'autre. Qui m'eût dit que je ne les reverrais de ma vie et que là finiraient nos éphémères amours.
Qu'est-ce que vous aimez tant dans ce passage des cerises, William de la Rocard?
Moi, ce que j'y vois et qui me touche aussi beaucoup, c'est... quelque chose qui parcourt toute son œuvre, le paradis perdu. Ça commence avec sa tante qui lui chante des chansons quand il est enfant, les chansons qu'il va se rappeler toute sa vie ensuite et qui vont déterminer sa passion pour la musique. Et puis cette journée qu'on appelle nous la journée des cerises, où il est avec ses deux jeunes filles près d'Annecy dans la campagne savoyarde.
Et vous, Philippe Lejeune, pourquoi vous aimez ce passage, cette journée des cerises? Vous savez ce qui vous touche particulièrement?
Oui, c'est le paradis perdu.
Aussi.
C'est absolument délicieux.
Oui, c'est délicieux.
C'est tout à fait délicieux. Non seulement Rousseau n'est pas un égoïste, mais c'est un partageux. il nous donne à goûter ces choses délicates, merveilleuses, tendres. C'est un cadeau qu'il nous fait.
Les confessions de Jean-Jacques Rousseau ou le désir de transparence, c'est sur France Inter dans l'heure des rêveurs et ce jusqu'à 21h.
J'ai dans la tête une passe. passagère clandestine dont je ne peux pas dénoncer les dessins. Un peu plus chaque jour, elle m'assassine, moi qui n'ai jamais fait semblant de rien. Mais ces misères, parfois, je les oublie par cœur. Quand la poupée se fait gentille, quand elle délaisse entre vos bras ses airs moqueurs, son curieux rire de petite fille en pleurs. Voyez l'état dans lequel je me confine, au désespoir de l'entendement humain. Devant les faits, que voulez-vous, je m'incline et je prends un peu la vie comme elle vient. Mais ces misères, parfois, je les oublie par cœur. Quand la poupée se fait gentille, quand elle délaisse entre vos bras ses airs moqueurs, son curieux rire de petite fille en pleurs. Parfois je les oublie par cœur. Quand la poupée se fait gentille, quand elle délaisse entre vos bras ses airs moqueurs, son curieux rire de petite fille en pleurs.
William de la Roca et Philippe Lejeune, je voulais vraiment qu'on parle d'un autre aspect du personnage. Vous m'en aviez déjà un peu parlé, William de la Roca, des réactions d'hostilité que peuvent avoir les spectateurs vis-à-vis de Jean-Jacques Rousseau. Je voulais que vous m'en parliez parce que c'est un personnage quand même paradoxal et c'est un personnage contradictoire.
L'hostilité, elle est souvent provoquée par l'épisode donc de l'abandon des 5 enfants qu'il a eu avec Thérèse Levasseur. Je me suis rendu compte que certaines personnes sont absolument incapables d'écouter ce qu'il dit. Donc, l'abandon des enfants, oui, il explique, hein, voilà, quel homme j'étais au moment où j'ai fait cette erreur que je regrette et dont je me repens et dont je souffre surtout beaucoup. Après, une fois qu'il a expliqué tout ça, il me semble qu'on n'a plus qu'à se taire et à le plaindre. Hein.
Mais alors que c'est pas ça qui se passe.
Une fois, ça a été très très violent une fois. J'ai eu droit à un procès en sorcellerie, ni plus ni moins, à une femme totalement transfigurée par la haine, disant que tout ce qu'il disait était irrecevable. Voilà.
Ce qui est génial, c'est qu'il suscite encore des passions aujourd'hui. C'est ça qui est formidable, c'est de s'imaginer. Ah oui, à ce point-là ?
Ah oui, oui, oui. Que ce soit sur cette question-là, sur la politique aussi, puisque vous savez que certaines personnes le rendent responsable de la terreur, voire du stalinisme, ou même de toutes les atrocités qu'a commises Pol Pot plus tard. Enfin, oui, ça va très loin, quoi.
Ah bon, ce qui vous arrive après les représentations, quand il s'agit de grignoter ensemble.
Oui,
et de...
une de mes hôtesses a été agressée dernièrement par un de ses amis dans la rue, qui lui a dit « Mais quand est-ce que tu vas arrêter tes conneries avec Rousseau ? Tu te rends pas compte que c'est à cause de lui qu'on est dans cette merde ?»
Philippe Lejeune.
Je crois qu'un des grands problèmes des confessions de Rousseau, c'est qu'en fait, on revient toujours à ce problème-là. Ça nous, c'est pas que ce que Rousseau a fait est condamnable, horrible, etc. C'est qu'en fait, ce qu'on lui pardonne pas, c'est d'être descendu dans la vérité. Et nous, notre vérité, ben nous avons des compromis avec elle. Et Rousseau gêne. Il gêne donc non pas du tout par son amoralisme, mais il gêne par sa sincérité, par le fait qu'il est allé en fait jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout.
Son désir de transparence absolue, en fait.
Et vrai, après se pose le problème de la bonne foi ou de la mauvaise foi, alors qui est évidemment tout à fait subjectif.
Ouais.
Tout le monde a une petite part de mauvaise foi, William, malgré tout.
Et Rousseau aussi.
Rousseau aussi, mais il a la bonne foi de nous expliquer, de nous donner un tableau direct de sa mauvaise foi, si je puis dire, dans certains petits passages. Hein. On le sent, donc on finit par s'habituer à lui. On a de la tendresse, de l'amitié pour lui, de la camaraderie. On lui dit, Jean-Jacques, là...
Tu pousses un peu.
Oui.
Tu vas un peu loin, Jean-Jacques.
Je pense qu'on a cette réaction, une réaction complice, parce que qu'en fait, on voit bien que soi-même, on ne doit pas faire tellement mieux dans des circonstances analogues.
En tout cas, ce que je vois, c'est que tous les deux, vous le pensez plutôt de bonne foi.
Oui.
Vous êtes totalement de son côté.
À moi, c'est indéniable.
Et vous aussi, Philippe Lejeune. Oui, je pensais que vous étiez un tantinet plus critique, mais pas du tout.
Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis sur la même ligne que William.
Ouais.
Inconditionnel, total.
D'accord, deux inconditionnels.
Vous êtes la première personne que j'ai rencontrée lorsque vous êtes venu me voir pour la première fois, avec laquelle j'ai vraiment senti une affinité profonde de ce point de vue-là vis-à-vis de lui.
Vous vous êtes senti moins seul en rencontrant Philippe Lejeune.
Ah oui, absolument, absolument.
Vous voyez ? Et non, vous avez vu tous les spectacles, les 12 spectacles
les
d'une 13. Heure, les 13.
Et plus.
Et plus, vous voyez, revoyez. D'ailleurs, moi, je vous ai rencontré à cette occasion. Vous étiez là pour venir l'écouter. Alors, quand William de la Rocca sait qu'il va aborder lors d'une de ses représentations la question de l'abandon des enfants de Jean-Jacques Rousseau, il prend soin de distribuer avant le spectacle un article issu de la Pléiade. Et voilà ce qu'on peut y lire. « Le nombre des enfants abandonnés à l'hospice des enfants trouvés n'a fait qu'augmenter au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Pour vous donner un exemple, en 1772, Paris comptait à peu près 600 000 habitants et cette année-là, 18 713 enfants ont été placés à l'hospice, soit 41% des enfants nés cette même année. Cette institution est peu à peu devenue le refuge de tous les enfants que les parents, pour une raison ou pour une autre, ne pouvaient élever. De la création de l'hospice en 1746 jusqu'à la Révolution française, près de 400 000 enfants ont été recueillis. Mais le mieux encore, je pense, c'est d'écouter ce que Jean-Jacques Rousseau a écrit dans ses Confessions à propos de l'abandon de ses enfants. William de la Rocca.
Si je disais mes raisons, j'en dirais trop. Puisqu'elles ont pu me séduire, elles en séduiraient bien d'autres. Je ne veux pas exposer les jeunes gens qui pourraient me lire à se laisser abuser par la même erreur. Je me contenterai de dire qu'elle fut telle qu'en livrant mes enfants à l'éducation publique, faute de pouvoir les élever moi-même, en les destinant à devenir ouvriers et paysans plutôt qu'aventuriers et coureurs de fortune, je crus faire un acte de citoyen et de père, et je me regardais comme un membre de la République de Platon. Plus d'une fois, depuis lors, les regrets de mon cœur m'ont appris que je m'étais trompé. Mais loin que ma raison m'ait donné le même avertissement, j'ai souvent béni le ciel de les avoir garantis par là du sort de leur père et de celui qui les menaçait quand j'aurais été forcé de les abandonner. Mon troisième enfant fut donc mis aux enfants trouvés ainsi que les premiers, et il en fut de même des deux suivants, car j'en ai eu cinq en tout. Cet arrangement me parut si bon, si sensé, si légitime, que si je ne m'en vantais pas ouvertement, ce fut uniquement par égard pour la mère, parce qu'en effet, je n'y voyais aucun mal. Tout pesé, je choisis pour mes enfants le mieux ou ce que je crus l'être. J'aurais voulu, je voudrais encore avoir été élevé et nourri comme ils l'ont été.
Quelle langue magnifique, non?
Ah, ça, nous sommes bien d'accord. C'est même aussi une des choses qui m'ont bouleversé dès la première lecture. Ce style, cette prose, pour moi, c'est merveilleux à dire. Je ne pourrais jamais m'ennuyer de ça.
C'est du plaisir.
Voilà, je ne pourrais jamais épuiser ça. Il y a des passages, quand je sais que je vais les dire, je suis très heureux, ça me comble. Et puis quand je vois aussi l'effet que ça a sur mes auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs pour peut-être qu'ils aient le courage de se plonger et de se perdre dans ces confessions?
Je leur dirais d'aller écouter William de la Rocca.
Ah, c'est pas bête. Et moi, je dirais comme vous, Philippe Lejeune, allez écouter William de la Roca parce que c'est un Rousseau ressuscité. C'est vous qui employez ce terme, Rousseau ressuscité.
C'est saisissant et c'est le charme du théâtre d'appartement, cette proximité où le public se trouve à 2 mètres ou 3 mètres de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs, entre en scène en regardant son public, en cherchant de l'œil un regard un peu favorable qui lui donne le courage de se lancer dans l'épisode suivant de ses confessions.
Le comédien aussi cherche un regard favorable.
Ben merci à tous les deux en tout cas.
Merci beaucoup.
Et bon courage à vous, William de la Roca.
Merci.
Voilà, c'est fini pour ce soir. Sur le site de l'émission L'Heure des Rêveurs, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur les spectacles de William de la Roca. Et si jamais vous avez envie de voir Jean-Jacques Rousseau dans votre salle à manger, n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas. Sur le site de l'émission aussi, tout ce que vous devez savoir sur Philippe Lejeune et son association pour l'autobiographie. Merci à eux deux. La semaine prochaine, Jean-Jacques Rousseau, toujours, mais cette fois-ci avec son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, avec Martin Rueff. À ne pas louper, croyez-moi, ça met du baume au cœur. Alors à vendredi en 8, passez un bon week-end.